Vous écoutez On lit pour vous.
Le père de l'étapisme n'est plus. Claude Morin, 1929-2026. Un texte d'André Duchesne et Denis Arcan, paru le 4 mai 2026 dans la presse. Claude Morin, qui fut tour à tour professeur, grand commis de l'État, ministre dans le gouvernement de René Lévesque et auteur de plusieurs essais consacrés à la politique québécoise et aux relations Québec-Canada, nous a quittés. Il aurait eu 97 ans le 16 mai 2026. La carrière de M. Morin s'est étendue sur 7 décennies et a été émaillée de 2 événements majeurs. L'adoption par le Parti québécois d'un mécanisme d'accession à la souveraineté par référendum, mieux connu sous le nom d'étapisme, et les révélations du journaliste Normand Lester, selon lesquelles il avait collaboré avec la Gendarmerie royale du Canada, GRC, tout en étant payé dans les années 1970. C'est par ailleurs l'entente conclue le 5 novembre 1981 entre Ottawa et les 9 autres provinces anglophones sur le renouvellement, puis le rapatriement, de la Constitution canadienne, surnommée la Nuit des longs couteaux, qui le convaincra de quitter ses fonctions de ministre péquiste et de retourner à l'enseignement universitaire. Ce faisant, Claude Morin mettait fin à une carrière de plus de 20 ans dans l'appareil politique québécois, où il a servi 5 premiers ministres, Jean Lesage, Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa et René Lévesque, comme il le raconte dans un de ses ouvrages intitulé « Mes premiers ministres ». Les débuts. Né le 16 mai 1929 dans l'ancienne municipalité de Montmorency, Beauport, Claude Morin grandit et fait ses études au Collège Saint-Grégoire, dans sa ville natale. Il étudie par la suite à Québec, faisant son cours classique au petit séminaire avant de s'inscrire à l'Université Laval, où il décroche un baccalauréat en sciences sociales et une maîtrise en sciences économiques. Comme bien d'autres intellectuels de l'époque, Morin est influencé par le père Georges-Henri Lévesque, sociologue, dominicain et premier doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Le père Lévesque croit en son potentiel et lui propose de rejoindre le corps professoral de sa faculté. Cela se concrétise à l'automne 1956, alors que Morin revient d'un séjour de 2 ans à l'Université Columbia de New York, où il a obtenu sa seconde maîtrise, Social Welfare. À l'Université Laval, Claude Morin déborde rapidement de ses tâches d'enseignement. Il est tour à tour secrétaire de l'École de service social, commentateur à l'émission La vie économique à Radio-Canada, auteur d'articles, consultant, etc. Morin n'assiste pas les bras croisés au premier bouillonnement de la Révolution tranquille. Il devient rédacteur des discours du nouveau premier ministre Jean Lesage après les élections du 22 juin 1960, tout en étant consultant pour divers ministères. En 1963, Jean Lesage lui demande de devenir sous-ministre des Affaires fédérales provinciales, poste qu'il occupera jusqu'en 1967. Québec a alors déjà plusieurs contentieux avec Ottawa et les provinces anglophones. Claude Morin sera un observateur avisé au point de conserver la confiance de son nouveau patron et chef de l'Union nationale, Daniel Johnson père, lorsqu'il devient premier ministre en 1966. Claude Morin poursuit son travail en coulisses, prépare la position du Québec dans les nombreuses conférences constitutionnelles, tout en donnant des avis sur diverses réformes. Après la mort de Daniel Johnson père, il reste en poste à la demande du premier ministre unioniste Jean-Jacques Bertrand. Morin poursuit son travail auprès de Robert Bourassa en 1970. Il est de la délégation accompagnant Bourassa en Europe au printemps, puis à la conférence de Victoria de juin 1971. Cette conférence est marquée par le rejet du Québec d'un projet de création d'une charte constitutionnelle parce que la province n'obtient aucun nouveau pouvoir. Mais Morin ne voit pas Robert Bourassa comme l'homme de la situation. Bien que mes relations avec Bourassa fussent demeurées bonnes, sa manière d'être et d'agir me décevait de plus en plus. Par conséquent, j'avais décidé de quitter, écrit Morin dans « Mes premiers ministres ». Devenu professeur de relations intergouvernementales à l'École nationale d'administration publique, ENAP, Morin enseigne aussi aux universités de Montréal, Laval et du Québec à Montréal. Et ce, jusqu'en 1976, lorsqu'un nouveau défi se présente, La politique active. Cause souverainiste. Proche du Parti québécois qu'a formé René Lévesque, qu'il connaît depuis le début des années 1960, Morin devient membre de la formation en mai 1972. Une expérience de 8 années et demie m'avait finalement convaincu que l'avenir du Québec se trouvait du côté de la souveraineté, écrit-il dans « Mes premiers ministres ». Aux élections du 29 octobre 1973, Morin se présente dans Louis-Hébert. Il est battu par le libéral Gaston Desjardins par une marge mince de 777 voix sur 36 706 votes exprimés. Un an plus tard, au congrès du PQ tenu en novembre 1974, Morin propose à son parti d'adopter une approche homéopathique d'accession à la souveraineté. D'abord, faire élire le parti et tenir ensuite un référendum sur la souveraineté. L'étapisme est né. Je n'étais pas d'accord avec l'article du programme péquiste qui prévoyait que l'indépendance pouvait être déclarée à la suite d'un simple vote à l'Assemblée nationale, écrit-il. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens qu'un gouvernement majoritaire ayant, disons, 40 % des voix, puisse déclarer l'indépendance sans le consentement de 60 % de la population, écrivait Claude Morin dans le livre « Mes premiers ministres ». Réunis à Québec les 16 et 17 novembre 1974 pour le 5e congrès du Parti québécois, les 1334 délégués se déchirent sur la question. Les purs et durs, identifiés à l'aile gauche de la jeune formation, rejettent cette idée défendue par les réalistes, René Lévesque en tête. René Lévesque appuie ainsi la stratégie du bon gouvernement d'abord, puis de l'indépendance ensuite, par référendum. Elle est adoptée par les deux tiers des voix. Cette approche lui vaut l'inimitié d'une partie des membres du parti qui obtiennent que ce référendum se tienne durant le premier mandat d'un gouvernement péquiste, ce que Morin regrettera par la suite. Victoire convaincante. Aux élections du 15 novembre 1976, le Parti québécois prend le pouvoir pour la première fois de son histoire. Claude Morin est élu dans Louis-Hébert, où il bat le libéral Jean Marchand, ancien ministre fédéral sous Pierre Elliott Trudeau. Sa victoire est convaincante. 58,2% des votes exprimés et une majorité de 9 543 voix sur Marchand. De cette victoire du PQ, Morin dit qu'elle constitue un vote pour la reconstruction du Québec, un vote pour la fierté des Québécois, rapporte le quotidien Le Soleil. Il prête serment comme ministre des Affaires intergouvernementales et restera à ce poste jusqu'à son départ en janvier 1982. Il retrouve alors tous les litiges Québec-Ottawa sur lesquels il avait œuvré comme sous-ministre et un grand nombre de vis-à-vis du reste du Canada. Il met en œuvre des initiatives diplomatiques du Québec à l'étranger pour diffuser le point de vue du gouvernement et contrer le discours fédéral. Il participe à la rédaction de la question référendaire qui demande aux Québécois le mandat de négocier avec le Canada la souveraineté association. Son style calme et peu loquace lui vaudra le surnom de « Sphinx de Louis-Hébert », un sobriquet reflétant aussi son penchant pour les négociations serrées, les jeux de coulisses, les entretiens secrets et les stratégies complexes. Aux yeux de son dernier patron à Québec, Morin fut un piocheur infatigable, à l'esprit toujours en éveil, constamment à l'affût des pièges que pouvaient nous tendre ceux d'Ottawa, lesquels l'exécraient, d'ailleurs, avec une cordiale intensité, écrivit René Lévesque dans ses mémoires publiées en 1986. Vers la sortie. Dans ses mémoires, Morin se dit d'accord avec la longue formulation de la question du référendum tenu le 20 mai 1980, où le camp du non remporte une victoire sans équivoque avec pratiquement 60 % des votes. À la lire aujourd'hui, force est de constater qu'elle disait exactement ce qu'elle voulait dire. « Rien de plus, rien de moins », écrivait Claude Morin dans le livre « Mes premiers ministres ». Évidemment déçu par les résultats du vote, Morin déclare, le soir du 20 mai 1980, que les fédéralistes ne tiendront pas leurs promesses de changement. Il est néanmoins déterminé à poursuivre son travail. « Demain, nous recommencerons et le pays, nous l'aurons », dit-il. Après la défaite, donc, Il prépare les négociations constitutionnelles lancées par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, qui veut modifier et rapatrier la Constitution canadienne. Mais en novembre 1981, le Québec est isolé pendant les négociations. Le gouvernement fédéral s'entend avec toutes les autres provinces pour adopter la nouvelle Constitution, ne tenant pas compte des revendications du Québec. C'est la nuit des longs couteaux. Morin repart amèrement déçu et écrit à ses homologues des autres provinces pour exprimer sa consternation. Fin décembre 1981, Morin remet sa démission à René Lévesque. Sur le plan humain, cet aboutissement m'affecta à un point que je n'aurais pas imaginé. Je souhaitais tellement que le Québec s'en tire autrement, malgré le handicap formidable que représentait, face au Canada anglais et à Ottawa, la réponse négative des Québécois au référendum, écrit M. Morin dans cette lettre datée du 15 décembre 1981. Le coup de force d'Ottawa a donné le coup de grâce à Morin, titre La Presse le 7 janvier 1982, au lendemain du dévoilement de la lettre de démission. Cette fois, Claude Morin revient à l'enseignement pour de bon. Il retourne à l'ENAP et est professeur invité dans plusieurs établissements au Québec et ailleurs dans le monde. Rapport avec la GRC. En 1992, 10 ans après sa retraite de la politique, le journaliste Normand Lester publie un livre choc qui dévoile la tenue de rencontres entre l'ex-ministre provincial et la GRC de 1974 à 1977. C'est l'affaire Morin. Ses détracteurs l'accusent d'avoir été une taupe fédérale. Mais Morin se défend. En entretenant des rapports avec la GRC, il avait une chance, dit-il, de voir venir d'éventuels coups contre le Parti québécois de la part de la police fédérale, responsable de plusieurs actions clandestines illégales à cette époque, comme il sera révélé plus tard. Morin soutient avoir plutôt manipulé les agents fédéraux, ne leur donnant que des informations de pacotille, alors qu'en revanche, il tirait d'eux des informations utiles tout en rendant moins probables d'autres tentatives d'infiltrer le PQ. Claude Morin avait informé en 1977 le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, de ses contacts avec la GRC. Ce dernier lui avait alors dit de mettre un terme à ses rencontres. Le fait qu'il ait accepté de l'argent, donné au PQ et à des œuvres de charité, selon lui, a toutefois terni sa réputation. Claude Morin prendra sa retraite de l'enseignement à la fin des années 1990. Marié en 1956 à Mary Bernadette Lynch, morte le 20 avril 2023, père de 5 enfants, grand-père et arrière-grand-père, Claude Morin a publié une dizaine d'ouvrages au cours de sa vie. Son plus récent, « Je le dis comme je le pense », date de 2014. C'était « Le père de l'étapisme n'est plus », Claude Morin, 1929-2026. Un texte de André Duchesne et Denis Arcan, paru le 4 mai 2026 dans La Presse.
Les gars, c'est le temps de se confier. Un texte de Catherine Enfield, paru le 3 mai 2026 dans La Presse. C'est en traversant une période difficile ces dernières années que Xavier Cranstrom Richard en a pris conscience. Il avait trop peu d'amis à qui il se sentait entièrement libre de se confier. Xavier venait de traverser la pandémie, avec de jeunes enfants à la maison. Ils se séparaient, une séparation de pandémie, et il ressentait le besoin d'en parler à un ami, pas à un psychologue, à un ami, pour mieux comprendre ce qui lui arrivait, pour se sentir écouté. « J'ai vraiment eu de la difficulté », confie Xavier, « et ça m'a énormément confronté à ma propre capacité à entretenir mes amitiés. » Pendant ces mêmes années, Xavier Cronstrom Richard a réalisé le balado « Histoire de père » sur audio. Plusieurs papas sont venus au micro pour parler de leurs épreuves. Et Xavier a observé le même phénomène. Les amis de gars, offrant du soutien émotionnel, étaient absents des discussions. Quand ils évoquaient leur entourage, c'était pour parler de leur famille, de leur blonde, de leur groupe de sport, se souvient Xavier. Xavier est habité, depuis, par un sentiment de révolte, de douce révolte. Je retrouve mon énergie et je me suis doté d'un mandat. Allez voir mes chums, résume l'homme de 44 ans qui a publié un message touchant sur Facebook en mars dernier. Un café à la fois. Il revoit ses amis pour prendre le pouls. Dans la foulée, plusieurs hommes lui ont écrit, en public et en privé, pour lui confier qu'ils se sentaient seuls, eux aussi. Il y a un grand vide de l'intime, observe-t-il. Moins d'amis. C'est une réalité bien documentée. Les gens, hommes et femmes, voient moins leurs amis qu'avant. En 2022, un Canadien sur cinq passait du temps avec des amis lors d'un jour moyen, contre près d'un sur deux en 1986, selon une étude de Statistique Canada publiée l'an dernier. Cette même étude mettait en lumière une autre réalité liée. Les Canadiens n'ont jamais été aussi nombreux à se sentir pressés par le temps. Lorsque nous l'avons rencontré, Xavier Cronstrom Richard avait donné rendez-vous à son ami Simon Coutu dans un café du quartier Villeray à Montréal. En s'asseyant, Simon, qui travaille aussi dans le domaine des médias, a exprimé une réflexion tout à fait à propos. « En ce moment, je devrais être en train de travailler », a confié le père de famille, qui travaille sur plusieurs projets, à son grand bonheur d'ailleurs. Simon Coutu constate néanmoins que les aléas de la paternité et du travail ont relégué les amitiés au second plan. « Quand il voit des amis, dit-il, ce sont essentiellement d'autres parents pour que les enfants jouent ensemble. Des soirées agréables, mais peu propices à la confidence. » Simon et Xavier s'accordent. Ils n'ont pas tendance, spontanément, à se confier à leurs amis de gars, entre autres sur le rôle de père. Quand je le fais, je remarque que ça me fait du bien, mais c'est comme si c'était culturellement intériorisé comme un aveu de faiblesse, observe Simon. Je pense qu'on n'a pas appris à exposer nos doutes, résume Xavier. Moins de confidents. Ces réflexions échangées entre deux gorgées de café sont elles aussi bien documentées. Globalement, le niveau de soutien social est plus faible chez les hommes. Deux fois plus d'hommes que de femmes rapportent n'avoir aucun confident, souligne le professeur de travail social Gilles Tremblay, qui a dirigé plusieurs grandes études sur les hommes. Lorsque les hommes en ont un seul, c'est souvent leur conjointe. Quand les difficultés de couple arrivent, ils n'ont plus personne, souligne Gilles Tremblay. D'où vient cette différence entre les hommes et les femmes? D'abord de la manière dont on élève les garçons et les filles, estime le professeur retraité de l'Université Laval. Il cite les travaux de William Pollack, psychologue et professeur à Harvard, qui a mis en lumière les règles sociétales non écrites dictant le comportement des garçons. Les parents consolent les petites filles, mais misent beaucoup sur l'autonomie des garçons, résume-t-il. Or, pour développer une réelle autonomie, il faut d'abord de l'attachement, souligne Gilles Tremblay. Les pressions de la masculinité traditionnelle, autonomie, indépendance, compétition, sont encore bien présentes, estime le travailleur social Éric Couteau, directeur général du Centre de ressources pour hommes de Montréal. Et dans une relation amicale, un « safe space », ces enjeux n'ont pas leur place, rappelle-t-il. Pour certains hommes, c'est confrontant, résume M. Couteau. L'intimité entre hommes peut paraître louche ou inconfortable à certains hommes qui associent rapidement intimité et sexualité. Mais ce sont deux choses bien différentes, rappelle Gilles Tremblay. D'autres facteurs encore peuvent nuire au potentiel des amitiés masculines, estime Éric Couteau. À l'exception du sport, la société ne valorise pas tellement les activités amicales associées aux hommes, comme les jeux de rôle ou les jeux vidéo, rappelle-t-il. Et encore aujourd'hui, quand les enfants sont en bas âge, ce sont d'abord les mères qui portent la charge mentale. Dans l'imaginaire collectif, il y a l'archétype de la blonde qui doit consentir des airs lousses pour que le gars sorte avec ses amis. Évolution. La société, heureusement, évolue. Le professeur Gilles Tremblay se souvient d'un groupe de discussion qu'il avait organisé il y a une dizaine d'années. Un jeune homme racontait qu'après s'être séparé, il avait jasé avec un ami jusqu'au petit matin. Les hommes plus âgés avaient les yeux grands ouverts, se souvient M. Tremblay. Soit les influenceurs masculinistes à la Andrew Tate existent, il faut être vigilant. Mais le phénomène, au Québec, demeure minoritaire, estime Gilles Tremblay. Désolé, votre navigateur ne supporte pas les vidéos. Le paysage télévisuel québécois témoigne aussi de certaines avancées, dit-il. Gilles Tremblay pense au personnage d'André Lapointe, Michel Lapeyrière, dans la série Indéfendable à TVA. Un homme sensible, capable d'exprimer ses émotions. Malheureusement, ces modèles, il n'y en a pas tant que ça, convient le professeur, qui rappelle que le modèle Bruce Willis demeure très en vogue. Dans cette transformation des modèles, les hommes sont confrontés à de doubles contraintes, constate Éric Couteau. Ils doivent subvenir aux besoins financiers de leur famille tout en étant disponibles pour leurs enfants, se montrer vulnérables, mais virils à la fois. Le travailleur social évoque une rencontre qu'il avait faite dans le cadre de son doctorat qui portait sur les hommes victimes de violences conjugales. Un homme lui avait raconté que sa conjointe avait été violente verbalement avec lui parce qu'il n'avait pas joué au coq pour la défendre d'une personne impolie au centre commercial. Quand un homme souhaite adopter une posture en dehors de la virilité, c'est vu comme douteux, se désole-t-il. Mais là où je m'inscris en faux contre le mouvement masculiniste, c'est que pour moi, ce n'est pas la faute du féminisme, c'est la faute du patriarcat, dit-il. Xavier Cranstrom-Richard, lui, aimerait bien secouer la baraque pour que cette colère ne nourrisse pas la manosphère, mais plutôt une reconstruction des modèles, de l'homme collectif. Parce que des hommes intelligents et éveillés sur le plan émotionnel, il y en a plein. Assure Xavier. À ses yeux, ils n'ont simplement pas toujours les codes pour l'exprimer ni la représentativité qu'ils méritent. Un café à la fois, Xavier prend des notes qui déboucheront éventuellement, espère-t-il, sur la rédaction d'un récit. Et si sa quête faisait boule de neige? C'était « Les gars, c'est le temps de se confier ». Un texte de Catherine Enfield paru le 3 mai 2026 dans la presse.
Pas sportive ? Pas grave. Pas active ? On va changer ça. Un texte de Kim Marois, paru le 4 mai 2026 dans la presse. L'activité physique ne devrait pas être optionnelle, estime la directrice générale de Filles Actives, Kim Marois. 8%. C'est la proportion de filles au pays qui atteignent le niveau d'activité physique recommandé. 8%. Quand je suis arrivée chez Filles Actives en 2019, après un parcours de joueuse de soccer et d'étudiante athlète, j'ai compris une chose assez rapidement. Mon histoire n'était pas la norme. C'était l'exception. Et cette prise de conscience n'a pas été décourageante. Elle a été galvanisante. Elle m'a fait réaliser l'importance de faire en sorte que toutes les filles puissent, elles aussi, goûter au bienfait d'être actives régulièrement, qu'elles s'identifient comme des sportives ou non. Au fil des derniers jours, dans le grand dossier « Enquête de solutions », des voix fortes se sont élevées. Pierre Lavoie nous rappelle les super-pouvoirs du plein air. Fabrice Ville nous invite à retrouver une relation plus intuitive avec l'activité physique. Des parents, comme Jean-Philippe Bradette, témoignent des barrières d'accès au sport bien réelles auxquelles leurs filles font face. Les journalistes Nathalie Collard et Judith Lachapelle mettent en lumière l'ampleur du défi d'amener les filles à bouger. Une chose se dégage clairement de ces prises de parole. On commence pas mal à savoir quoi faire. Et pourtant, on laisse encore trop de jeunes, et particulièrement trop de filles, sur le banc. Le problème, ce n'est pas qu'elles manquent de motivation. Le problème, c'est qu'on a construit un monde où être active est optionnel. Parfois difficile. Parfois intimidant. Trop souvent inaccessible. Chez Filles Actives, notre rêve est clair. Que toutes les filles soient physiquement actives pour la vie. Pas nécessairement sportives, pas nécessairement compétitives, mais actives. Être active, ça veut dire essayer l'escrime, faire de l'escalade, organiser une rando entre amis, revenir de l'école en skateboard, marcher en ville, danser dans sa chambre, parce que tout le monde aime danser, comme dirait Chloé Rochette. Une place aux filles est une place à tous. Quand on crée des événements où les filles se sentent à leur place, peu importe l'activité qu'elles ont le goût d'essayer, sans jugement, sans pression de performance, avec du plaisir et des amis, quelque chose de puissant se produit. Elles embarquent. Et quand on réussit ces transformations, on crée des milieux plus inclusifs qui répondent aussi aux besoins de tous les jeunes vivant les mêmes barrières, qu'ils soient garçons ou de la diversité de genre. Autrement dit, en faisant une place aux filles, on fait une place à tout le monde. Alors disons-le simplement. Pas sportive ? Pas grave. Pas active ? On va changer ça. Non pas en demandant aux jeunes de s'adapter ou de se convaincre d'aimer ce qu'ils auraient présenté, mais en transformant ce qu'on leur offre. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de bouger plus. Il s'agit de bâtir une société où bouger est accessible, valorisé et surtout le fun. Une société où être active fait partie de la vie, tout simplement. D'ailleurs, en mai 2026, Filles Actives passe de la parole aux actes en déployant les célébrations, ces grands événements signature. Filles Actives a rejoint 250 000 filles depuis sa fondation en 2007. Notre ambition est de collaborer avec toutes celles et tous ceux qui ont la même ambition pour amener beaucoup plus de filles à être actives. Et vite ! Le gouvernement du Canada a annoncé dernièrement un investissement majeur pour soutenir le secteur sportif. En espérant que le Québec emboîte le pas, permettons-nous de rêver à un véritable modèle de société physiquement active. De la découverte jusqu'à l'élite, un modèle qui n'oublie personne. Personne, pas même les filles. C'était « Pas sportive, pas grave. Pas active, on va changer ça ». Un texte de Kim Marois, paru le 4 mai 2026 dans la presse.